Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindali Kabala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Léopard contre Tri-Lions, duel inédit à Kinshasa, puissance anglaise contre créativité congolaise, un choc à élimination directe très attendu. Debout jeunes congolais, un programme présidentiel pour l'emploi, lancé ce mardi par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa, 1,3 milliard de dollars, pour former, accompagner et créer des millions d'emplois des jeunes en République démocratique du Congo d'ici 2032. Former pour sauver des vies, 60 médecins en formation échographique en Mbujimayi pour renforcer la santé maternelle et fœtale. Pour en parler, nous recevons le professeur Célestin Kadima, chef du département de gynécologie obstétrique à l'université officielle de Mbujimayi. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Les léopards de la RDC affrontent ce mercredi à 17h heure de Kinshasa les Tri-Lions de l'Angleterre dans une rencontre à élimination directe très attendue. Ces duels inédits mettent aux prises deux sélections qui ne se sont encore jamais rencontrées et qui se distinguent par des styles de jeu bien différents. La puissance et la discipline tactique anglaise face à la vivacité et à la créativité congolaise. Les léopards pourraient toutefois compter sur l'expérience précieuse de certains de leurs joueurs évoluant dans les championnats anglais qui maîtrisent les exigences et le rythme du football britannique, ainsi que sur la connaissance de plusieurs adversaires qu'ils côtoient régulièrement dans les compétitions internationales. Jean-Gandou Kabongo.
RDC-Angleterre, une affiche inédite pour cette toute première confrontation entre les deux nations. Chacune nourrit l'ambition de s'imposer afin de décrocher son billet pour le tour suivant. Si pour les Anglais, une qualification en huitième de finale constituerait une suite logique, pour la RDC, il s'agirait d'un exploit historique et hautement symbolique. Sur le papier, l'Angleterre part favorite. Le pays a remporté la Coupe du Monde une seule fois en 1966 face à l'Allemagne de l'Ouest. Elle est dans les top 5 au dernier classement FIFA. Du côté de la RDC, il s'agit seulement de la deuxième participation à ce niveau et surtout de la première fois que l'équipe atteint ce stade de compétition. Son parcours jusqu'ici la positionne comme un outsider à suivre de près, capable de créer la surprise face à n'importe quel adversaire. La RDC est 46e au monde et revient après 52 ans d'absence. Pour les analystes sportifs, le sélectionneur national devrait s'appuyer sur la bonne prestation des Léopards face au loup blanc de l'Ouzbékistan afin de composer un 11 capable de rivaliser avec les Anglais.
Faire de la jeunesse le moteur de la transformation économique de la RDC, c'est l'ambition du nouveau programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, baptisé « Debout jeunes congolais », lancé ce mardi par le président Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa. Cette initiative issue des recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, tenue en novembre dernier, prévoit notamment des formations professionnelles, un accompagnement à l'entrepreneuriat et un meilleur accès à l'emploi. Doté d'un budget de 1,3 milliard de dollars américains sur 6 ans, dont une première enveloppe de 50 millions de dollars, le programme vise à créer des millions d'emplois d'ici à 2032. Le président Félix-Antoine Tshisekedi explique les enjeux de cette initiative dans ce propos recueilli par Grace Hamzati.
Pendant trop longtemps, on a parlé de la jeunesse comme d'un risque, d'une charge ou d'un problème à gérer. Je veux, devant la nation, renverser définitivement cette lecture. La jeunesse congolaise n'est pas une menace pour la République. Elle est la condition de son relèvement. Mais reconnaissons-le avec lucidité, une jeunesse sans formation, sans emploi, sans accompagnement et sans perspective devient vulnérable au découragement, à l'exode, aux manipulations, à l'économie de survie et dans les zones les plus fragiles, aux logiques de la violence. Debout, jeunes Congolais n'est pas un slogan de plus. C'est un instrument d'action publique. Ce programme repose sur la conviction que l'État ne peut pas, à lui seul, employer tous les jeunes Congolais. Mais il a le devoir de créer les conditions pour que chaque jeune puisse se former, accéder aux opportunités entreprendre, travailler dignement et contribuer à la prospérité nationale.
Le train urbain sera bientôt opérationnel à Kinshasa après 15 ans de trêve. Ce mardi 30 juin, le trafic inaugural a été lancé par le président de la République et autres personnalités. Ce train est parti de la gare centrale à l'aéroport international d'Ndjili. Selon des sources de la vice-primature des transports, il y a une rotation quotidienne avec une capacité de plus de 4000 passagers. Cette initiative vise à faciliter le déplacement de la population quinoise et à lutter contre les embouteillages. En Ituri, les personnes vivant avec un handicap se disent particulièrement exposées à l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement la province. Selon leurs représentants, leur vulnérabilité et le manque de mesures adaptées les exposent davantage au risque de contamination. Le rassemblement des personnes handicapées pour le développement intégral appelle les équipes de riposte à mieux prendre en compte les besoins spécifiques de cette catégorie de la population. Isaac Riemoyope nous en dit plus.
Près d'un millier de personnes vivant avec handicap sont enregistrées dans la ville de Bounia par les rassemblements des personnes handicapées pour le développement intégral RPDI. Selon cette organisation, depuis le début de l'épidémie d'Ebola, les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas d'une prise en charge adaptée dans les activités de riposte. Les RPDI citent notamment les cas des personnes à mobilité réduite qui se déplacent à rampant, souvent sans équipement de protection, y compris pour accéder à des toilettes qui ne sont pas adaptées à leurs conditions. L'organisation évoque également les difficultés rencontrées par les personnes aveugles et les personnes sourdes qui ne reçoivent pas toujours les informations de sensibilisation dans des formats accessibles. L'organisation plaide pour un accompagnement spécifique, notamment par la distribution de matériel de protection, l'aménagement d'infrastructures adaptées et le recours à des interprètes en langue des signes afin que les messages de prévention atteignent toutes les personnes concernées. Wangu Sunziwa, président du conseil d'administration du RPDI.
Ce sont plus exposés. La communication passe inaperçue, donc ça me fait peur. Il n'y a pas de moyens, il faut vraiment sensibiliser la communauté comment on doit faire pour protéger ces gens-là.
Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'équipe des ripostes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Lutte contre la maladie à virus Ebola toujours. Au Nord Kivu, une centaine de ménages de cas contacts reçoivent depuis ce mercredi des vivres du programme alimentaire mondial à Beni. Chaque ménage reçoit environ 100 kilos de vivres composés de riz, de farine de maïs, de petits pois, d'huile végétale et de sel iodé. Pour le superviseur du suivi des cas contacts dans la zone de santé de Beni, cette assistance vise à stabiliser ces ménages afin d'éviter leur déplacement à la recherche de nourriture, ce qui favorise la propagation du virus dans la communauté. Chirac Kassere Kakikandu est au micro de Marc Marofimbo.
C'est une assistance alimentaire qui vient du programme alimentaire mondial juste pour appuyer les contacts, pour favoriser les suivis. Et alors son objectif c'est stabiliser les contacts. Les contacts est supposé être suivi pendant 21 jours. Et durant ces 21 jours, il est supposé rester à la maison. Alors pour qu'il soit stable, pour ne pas se tracasser, chercher à manger, il faudra les stabiliser avec les vivres pour qu'ils se sentent un peu à l'aise. Ce n'est pas autant que quand on donne ses vivres, on a tout donné pour lui ou pour sa vie. Mais c'est juste essayer de l'aider, essayer de le sensibiliser à rester stable pour favoriser le suivi, pour se rassurer que les contacts n'ont présenté aucun signe. Parce que dans Ebola, un seul signe suffit pour devenir suspect. Mais ils ont compris. Et ce n'est pas pour ces vivres qui restent à la maison. Ils ont compris parce qu'ils sont déjà sensibilisés par les piliers de la communication avec les psychologues et maintenant avec les autres, l'équipe de surveillance. Chez les contacts, c'est le relais communautaire et le superviseur de suivi des contacts.
Le malade du Kassai central peine à se faire soigner. En cause, la grève des médecins membres du syndicat national des médecins, le SINAMED. Le mouvement dure depuis une semaine. Dans plusieurs hôpitaux, les consultations sont suspendues. Certains patients restent chez eux sans soins. D'autres restent hospitalisés mais sans prise en charge médicale complète. Les infirmiers sur le minimum, mais leur intervention reste limitée pour les cas graves. Le point avec André Katendenga Lamoulomé.
À l'hôpital général de référence d'Indécha, les médecins sont absents. Dans les couloirs, les malades attendent. Certains laissés finissent par rebrousser. Ceux qui sont internés ne reçoivent pas tous les soins nécessaires. Témoignage de Julie Njiba qui est hospitalisée depuis une semaine. Je ne suis pas bien traitée parce qu'il n'y a pas de médecin. C'est pénible. Les infirmiers prennent en charge les cas les moins compliqués. Mais lorsqu'un patient nécessite l'intervention d'un médecin, ils ne peuvent pas aller plus loin. Bernadette Toussekou renchérit.
Il y a d'autres diagnostics qui nécessitent seulement les médecins. Alors les médecins sont en grève. À notre niveau, on ne sait pas ce qu'on peut faire.
Malgré cette grève, le gouvernement n'a toujours pas répondu aux revendications du SINAMED. Le syndicat, lui, maintient son mouvement jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Une situation qui pénalise avant tout les patients, explique David Bidoya, secrétaire adjoint provincial du SINAMED.
Nous n'avons pas un problème contre les malades, mais c'est pour exiger que le gouvernement puisse répondre à nos besoins.
Depuis le 24 juin, les médecins du SINAMED réclament notamment l'intégration de la paye complémentaire au salaire de base, la mécanisation de 1000 médecins par trimestre et l'alignement de la prime des risques pour 800 médecins chaque trimestre. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit dans la province du Maniema où la proclamation des résultats de fin d'année scolaire est prévue ce jeudi 2 juillet. Le maire de Kindu, Augustin Atibou Moulamba, interdit toute manifestation de réjouissance sur la voie publique. Il justifie cette décision par le fait qu'en dehors des troubles à l'ordre public, on enregistre souvent des cas d'accidents de circulation ainsi que des exhibitions portant atteinte à la pudeur. Ainsi, il appelle les élèves et les parents à respecter strictement cette mesure. Écoutons Augustin Atibou Moulamba, maire de Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
À pareilles occasions, nous avons enregistré beaucoup d'accidents de circulation. Nous enregistrons aussi beaucoup de danses qui sont exhibées et qui portent atteinte à notre pudeur. Il y a beaucoup de nuisances. Voilà pourquoi je m'adresse à la population de Kindu. Qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année scolaire, notamment quand on fête les certificats, on fête les diplômes de l'enfant, ça ne se passe pas sur la place publique. Ça doit se faire à la maison. Que chaque parent, avec son enfant ou ses enfants, fête la réussite à la maison. Et tous ceux-là qui vont se permettre de fêter sur la voie publique, j'ordonne déjà à la police, aux forces de sécurité, aux services de sécurité, de pouvoir se saisir d'eux, de sorte qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Parce qu'il y a des infractions, notamment troubles à l'ordre public, atteinte à la pudeur, il y a des nuisances sonores, et tout ça, ce sont des infractions. Tous ceux-là qui vont enfreindre à ces communiqués-là, ils se mettent donc à ne pas respecter la loi, et voilà pourquoi ils seront poursuivis par la justice.
Éducation encore. 14 écoles primaires modernes seront bientôt construites au Kasaï oriental. Elles seront entièrement équipées et dotées d'infrastructures, d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP, financé par le Partenariat mondial pour l'éducation et mis en œuvre par la Banque mondiale. La ministre d'État chargée de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, a posé lundi dernier, la première pierre dans le village de Chovu, dans le territoire de Tshilenge, pour lancer officiellement la construction de ces écoles en RDC. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP vise à améliorer l'accès des élèves à des environnements d'apprentissage de qualité et à renforcer les pratiques pédagogiques ainsi que la gestion du système éducatif. Il couvre 5 provinces, l'Ituri, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Sud Kivu. Au Kasaï oriental, 14 écoles sont programmées, chacune pour un coût estimé à $250,000 américains avec un délai de construction de 6 mois. Elles seront accompagnées de 21 infrastructures hoches garantissant l'accès à l'eau potable, des latrines adéquates et un cadre scolaire sain. À Chovu, l'école actuelle est construite en rameau, dépourvue de latrines et de bancs pupitres. Les élèves étudient souvent à même le sol ou apportent des boîtes de lait usagées et des briques pour s'asseoir. Ceux qui terminent le primaire doivent parcourir près de 4 km pour rejoindre les écoles secondaires de Benakabimba ou Benakanda sur la nationale numéro
numéro 1. Les enseignants manquent régulièrement d'écrits et utilisent des tableaux portables usés pour dispenser les cours. En lançant les travaux, la ministre Raissa Malou a rappelé que la gratuité de l'enseignement primaire public ouvre les portes de l'école à tous les enfants, mais nécessite des infrastructures capables de les accueillir dans les conditions dignes. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, avant d'aller plus loin, la situation sécuritaire reste volatile ce mercredi dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Les axes Ngongo ou Famandu, dans la chefferie de Baoundé, ainsi que Nyang et Biboué, en chefferie de Bachali, figurent parmi les zones les plus touchées. Jusqu'à mardi, ces localités ont été le théâtre des violents affrontements opposant la rébellion de l'FCM23 à des coalitions des groupes Ouazalendo. Selon des sources locales, les combats se sont ensuite étendus à certaines zones du territoire voisin de Kalehe dans la province du Sud-Kivu. Les détails avec vous, Ronéline Tibonera.
Un calme précaire est observé jusqu'en fin de matinée, c'est mercredi dans plusieurs zones affectées, rapportent différentes sources contactées dans la région. Celle-ci souligne toutefois que la situation demeure très tendue, les forces en présence restant en position d'observation. Dans la partie sud du territoire de Masisi, la coalition de Ouazalendo sous le commandement des Mahachano du groupe Mai Mai Lamuka aurait progressé lundi jusqu'à Kasake, à environ 5 km de l'agglomération agropastorale d'Engungu. Cependant, de nouveaux affrontements ont été signalés mardi à Kiambombo et Lumbishi, dans le groupement voisin des Iralo, territoire des Kalehe. La journée du 30 juin a également été marquée par une forte tension dans la localité d'Empati. Des tirs d'artillerie lourde y ont été entendus, notamment dans le village des Nyangé et Biboué, dans le groupement des Bachali Mokoto. Selon certaines sources, ces affrontements auraient fait un mort parmi les civils et 7 blessés. Des cas de pillage des biens et des bétails appartenant aux populations locales ont également été rapportés. Rappelons que depuis la semaine dernière, la situation restait préoccupante dans cette zone, située à cheval entre les territoires de Masisi et Kalehe. Alors que la crise humanitaire s'aggrave à la suite des violences armées, la précarité des communautés locales ne cesse de s'accentuer, déplorent plusieurs acteurs de la société civile.
Actualité internationale.
La médiation de la CEDEAO est à nouveau critiquée à Bissau, 7 mois après la prise de pouvoir des militaires et l'annulation du processus électoral. Le chef de la délégation, le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Timothy Kaba, a créé la surprise en annonçant qu'une révision constitutionnelle serait soumise à référendum. L'opposition affaiblie, avec des leaders forcés au silence ou à l'exil, dénonce une ingérence et critique la médiation ratée de l'organisation régionale.
L'invité.
En Mbujimayi, 60 médecins du Kasaï oriental et des provinces voisines suivent depuis lundi une formation de 2 mois en échographie gynécologique et obstétricale, initiée par l'université officielle de Mbujimayi en partenariat avec 4 autres universités du pays. Cette session vise à renforcer les compétences des praticiens pour mieux prévenir les risques liés à la santé maternelle et du fœtus. Le professeur Célestin Kadima, chef du département de gynécologie obstétrique à l'université officielle de Mbujimayi, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Célestin Kadima.
Bonjour, madame Esther.
Professeur, pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que recouvre l'échographie?
Et merci de la question. Nous venons de lancer la formation sur échographie gynécologique et obstétricale au bénéfice des médecins du Kasaï oriental et ceux d'ailleurs qui ont trouvé intérêt à venir se perfectionner. En effet, l'échographie est un examen d'imagerie médicale qui se trouve au centre du diagnostic pour beaucoup de maladies chez les femmes, parce que si je parle de l'échographie gynécologique, le diagnostic des maladies des organes génitaux de la femme, le suivi même de l'évolution du fœtus dans le sein de sa mère, nous le faisons grâce à l'échographie. Alors c'est un outil important que nous utilisons en gynécologie obstétrique, qu'il est nécessaire de pouvoir maîtriser ces examens, maîtriser l'interprétation des résultats pour améliorer la santé de la mère ainsi que du fœtus. fœtus, parce qu'on peut découvrir trop tôt certaines maladies, commencer à les prendre en charge afin que l'issue soit heureuse lorsque la femme va arriver à terme et qu'elle va accoucher. Les personnes qui sont venues à cette formation, c'est comme je le disais, c'est des médecins de la ville de Mbujimayi, différentes zones de santé de la province de Kassai-Oriental. Il y en a qui ont pris l'inscription, qui viennent de l'hôpital de Kanyamakasese dans la province de Olomami, des médecins qui sont venus de Kamina, de Lodja, qui sont venus ici pour apprendre aux cliniques universitaires de Mbujimayi.
Qu'est-ce qui justifie l'organisation de cette formation spécifiquement à l'intention des médecins?
Très bonne question, Madame Esther. C'est partant de ce que nous constatons sur terrain, c'est-à-dire il y a de plus en plus des appareils d'échographie dans des structures sanitaires, dans des hôpitaux, jusque dans certains centres de santé, il y en a. Mais la question que nous nous sommes posée, est-ce que toutes ces personnes qui réalisent ces échos sont formées et utilisent les chemins classiques? Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas organiser la formation et inviter les gens à venir ces capacités, parce que de toutes les manières, et la formation à court d'emploi est une obligation lorsqu'on travaille en médecine, parce qu'il y a des mises à jour. Même ceux qui ont déjà été formés, ils ont l'obligation de venir écouter encore de nouveau qu'est-ce qui a changé, quelles sont les nouveautés. Voilà, c'est dans cette optique-là.
Les médecins qui participent à cette session exercent-ils tous dans des structures équipées pour utiliser ce type de matériel?
L'idéal, c'est cela. Il faudrait que tout hôpital qui organise une maternité qui reçoit des femmes en consultation, voire même pour d'autres maladies, puisse avoir l'échographe, un appareil d'échographie pour les diagnostics. Mais je ne sais pas vous confirmer que tous les hôpitaux en possèdent, parce que il ne me revient pas de donner avec précision le niveau des plateaux techniques de chaque établissement de soins de santé.
Quelle est la durée prévue pour cette formation en échographie?
La phase théorique, nous avons prévu 10 jours. Le débouché, c'est l'obtention du certificat interuniversitaire. Peut-être je ne voulais pas révéler, il s'agit ici des 5 universités qui se sont mises ensemble pour former des médecins dans ce domaine-là. Il y a un formateur de l'université de Lubumbashi, un professeur de l'université de Kisangani, un professeur de l'université de Kinshasa, un professeur de l'université de Mbujimayi, campus de Tikama, et moi-même de l'université officielle de Mbujimayi. Il y a aussi d'autres spécialistes de médecine fœtale et diagnostic anténatal, comme le cas de Madame Petra Gabor de l'hôpital Sergio Pontoise de la France, qui va aussi associer à nous pour assurer cette formation. Donc la théorie, ça sera 10 jours, jour pour jour, de 9h juste à 16h, et la phase pratique prendra 2 mois. Il y a des examens à l'entrée, des examens à la sortie avant de remettre le certificat. C'est 2 promotions parce que nous avons fait 2 groupes de 30 médecins, donc 60 médecins vont être formés en échographie gynécologique et obstétricale. Donc après cette promotion de 30, celle des pratiques, il y a plusieurs sites sur la ville avec des moniteurs qui les accompagnent. On aura 2 stagiaires par site. Comme ça, ils ont le temps d'apprendre côté de leur formateur et d'être entraînés suffisamment.
Merci beaucoup, professeur Célestin Kadima.
Je vous remercie, madame. Merci.
C'était donc notre invité, le professeur Célestin Kadima, chef du département de gynécologie obstétrique à l'université officielle de Mbujimayi, qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Élisée Chikota Chivueta et Jean-Gandou Kabongo. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Vous pouvez continuer à suivre ce journal sur notre page TikTok et le réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.